mène tout droit à la deuxième partie de ces conférences de presse, la partie questions-réponses. Et je rappelle que nous avons avec nous ici quelques collègues de la MONUSCO pour nous prêter main forte pour couvrir vos besoins en termes de réponses à vos sollicitations. Nous restons donc ici à Kinshasa pour tout de suite aborder cette deuxième partie de la conférence de presse avec une question. Et il y a beaucoup de mains déjà ici, on reste à droite, à gauche. Donnez le micro, ici alors. Donc présentez-vous et puis posez une question.
RTNC2 Développement, Laetitia Massela. Célébration de la Journée internationale de la paix. À cette occasion commémorative, est-ce que la MONUSCO a organisé des activités aussi bien à Kinshasa que dans le province par rapport aux difficultés que le pays traverse?
À travers le pays, effectivement, un certain nombre d'activités sont prévues à Goma, à Lubumbashi, et puis dans d'autres provinces, des activités sont prévues pour commémorer cette journée. Il faut dire que ici, compte tenu de la situation à Kinshasa, nous avons fait que juste reporter cette célébration, et cela se comprend. Nous allons revenir à une date ultérieure que nous allons vous communiquer, le programme des activités que nous avions prévues et que nous avons juste repoussé de quelques jours sans doute. Nous allons rester peut-être sur la droite ici pour prendre une question.
Merci Albert Omba. Monsieur José Maria, vous avez assisté aux atrocités qui ont été perpétrés dans la ville de Kinshasa dans les journées de lundi et mardi. Quel est le bilan état à cœur des droits de l'homme que vous relevez de victimes de ces atrocités?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais premièrement exprimer mes condoléances aux familles de tous qui ont été tués pour la violence politique qu'on a documenté la journée de lundi et aussi de mardi, commencé par les policiers qui ont été assassinés et les civils qui ont été assassinés et aussi les enfants, les femmes et toutes les autres qui ont été bien tués, assassinés ou blessés. Comme Monsieur Bambara a déjà dit au nom du représentant spécial, mais c'est la position de l'haut commissaire, c'est la même. On condamne la violence, soit du côté des agents étatiques, ou soit des manifestants. Nous sommes en faveur des droits et libertés publiques et les droits à la manifestation pacifique, pas être empêchés ou confondu avec la violence et la répression. Nous sommes très préoccupés par l'utilisation de l'usage massif de la force, l'utilisation des armes létales dans le contrôle des manifestations. On a déjà condamné plusieurs fois ça. Et spécialement dans le contexte des manifestations de lundi et mardi. J'étais aujourd'hui avec Son Excellence le ministre de la Justice et je lui communiquais que nous sommes en train de préparer une enquête compréhensive avec l'information qui a été vérifiée par notre bureau. On va la partager avec les autorités et nous voudrions faire la justice et contribuer que tous qui sont responsables pour la justice soient du côté qu'ils soient, bien des agents étatiques ou de ceux qui sont manipulés, la jeunesse soit trouvée responsable et mise en justice. À ce moment, je pense que le message c'est clair, il faut appeler à la calme d'un côté et aussi à restaurer la confiance de la population dans les institutions et faire la justice sur tous les responsables de la violence. Nous sommes en train de compléter notre information et comme vous savez, notre standard de vérification c'est très exhaustif. En tant que ça, je ne voudrais pas parler des chiffres provisoires que nous avons, mais vous connaissez quels sont les chiffres de personnes tuées. Ça varie entre les 17 reconnus par le gouvernement et les cinquantaines qui sont été présentées par différentes sources de l'opposition et de la société civile. Notre bilan provisoire, c'était comme toujours entre les deux et nous sommes en train de confirmer. Mais je peux confirmer aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été tuées pour les armes de feu, et ça nous préoccupe, et beaucoup de personnes qui ont été tuées aussi par l'utilisation inadéquée de gaz lacrymogène et de matériel de contrôle de manifestation. Aussi, on a constaté qu'il avait des personnes parmi il avait les policiers, mais aussi les civils qui sont été tués avec une brutalité excessive qu'on va documenter et faire et je pense que c'est très nécessaire de faire la lumière de ça. À ce moment, il faut arrêter ce cycle de violence politique. Parce que sinon, nous sommes en train d'être en risque de dérouler, d'avoir un dérapage très, très dangereux. Et c'est pour ça qu'on rappelle à la CAMP d'un côté, à la restriction et dans l'usage de la force, et les autorités ont une responsabilité très grande à cet aspect, et aussi à faire la justice et mettre en justice tous les responsables de ces violences, soit du côté qui soit. Et comme j'ai dit, nous avons montré une grande préoccupation pour la situation en général, les risques de dérapage en violence politique, l'usage excessif de la force, les assassinats avec cruauté extrême. Ce qu'on a constaté lundi et mardi, c'est très préoccupant. Les pillages des commerces et les actes de criminalité, les attaques contre les sièges des partis politiques de l'opposition et aussi de la majorité. Et tout ça, c'est condamnable et je pense à ce moment ces pays il faut qu'ils se mettent ensemble en exercice de responsabilité pour revenir sur les processus politiques et abandonner la violence.
Juste pour ajouter un petit point à ce que mon collègue José María Aranas vient de dire, il faut dire que pour nous, Nations Unies, l'urgence c'est vraiment l'arrêt de ces violences-là et nous appelons les dirigeants politiques de tous bords et leurs partisans aussi à s'abstenir. En tout cas des actes de violence qui pourraient exacerber cette situation qui est déjà précaire. Et c'est pour cela que la MONUSCO, dès lundi, dans son communiqué, a dit que nous appelons à une enquête indépendante pour un peu situer les responsabilités de ces violences-là, afin que la justice puisse prévaloir. Et je crois que le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est prêt à appuyer toute enquête indépendante sur cette question-là. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire là-dessus. Nous allons peut-être prendre une troisième question ici avant d'aller à Goma. Nous avons un micro. Bon, voilà. Prenons la première main ici. Ensuite, on viendra.
Merci Charles de la parole. Médard Mouya, du journal Le Potentiel. Charles, je crois que dans le nouveau mandat de la MONUSCO, l'une des tâches principales dévolues à la MONUSCO reste la protection des populations civiles. Et partant du constat qu'on a fait le lundi et le mardi ici à Kinshasa, nous avons vu le peuple seul devant la force publique. Mais où était la MONUSCO ? Ce rôle séjourne seulement dans la partie est du pays ou c'est sur toute l'étendue de la République.
Merci pour la question. Il faut dire que dès que les événements ont commencé lundi, effectivement, nous avons ce que nous appelons les contingents de police unifiés de la MONUSCO, notamment le contingent égyptien qui est ici à Kinshasa, et qui a multiplié les patrouilles en ville pour essayer de prévenir. Et ce travail est monté crescendo depuis lundi jusqu'à mardi, jusqu'à aujourd'hui, je peux le dire, pour essayer de libérer beaucoup plus d'éléments de ce contingent. Et j'avoue que des patrouilles nocturnes, diurnes ont été organisées par ces contingents-là. La ville de Kinshasa, comme vous le savez, est immense. Une ville de plus de 12 millions d'habitants, semble-t-il. On ne peut pas être partout, mais là où nous en étions, on a essayé de jouer notre rôle de prévention. C'est vrai que, comme vous le dites, l'essentiel des forces de sécurité de la MONUSCO sont à l'est du pays. Mais dans notre plan de contingence et de préparation éventuelle de situations comme celles que nous avons vécues donc ces deux derniers jours, nous avions prévu de monter en puissance en termes de prévention et enfin en termes de contrôle afin de pouvoir décourager toute action violente. Les équipes également des droits de l'homme étaient sur le terrain et continuent d'être sur le terrain pour documenter justement ces violences-là. Et ce travail va continuer. Et c'est pour cela que José Maria et toute son équipe travaillent d'arrache-pied aux côtés, j'allais dire, de la police de la MONUSCO, qui n'a jamais cessé, j'allais dire, d'être sur le terrain. C'est vrai que nous avons reçu des appels où nous sommes arrivés quelquefois un peu en décalage par rapport aux événements qui se passaient là. Mais n'oubliez pas que, comme j'ai dit, on ne peut pas être partout dans cette grande ville qu'est donc Kinshasa, mais nos hommes et de la police et des droits de l'homme sont sur le terrain encore au moment où nous vous parlons pour essayer justement de prévenir tout dérapage. Voilà.
Oui, j'ai pas douté une petite chose parce que les tâches de monitoring, reporting et documentation des violations des droits de l'homme, ce n'était pas un exercice bureaucratique. On a vu que ça c'est la base, ça constitue la base pour ouvrir les dossiers judiciaires postérieurs. Alors c'est très important pour faire la justice et pour établir la responsabilité. On ne peut pas faire en matière de droits de l'homme la protection physique, mais notre travail c'est très important pour documenter qui fait quoi et utiliser ça après pour établir la responsabilité judiciaire ou des autres. Il avait beaucoup d'intérêt hier même, j'étais en contact avec le commissaire des droits de l'homme et avec la hiérarchie de New York qui nous ont demandé avoir une copie de toutes les enquêtes pour commencer à voir quelles sont les actions contre les responsables de la violence politique.
Et c'est vrai que nous le disons souvent à toutes nos conférences de presse, n'oubliez pas que dans ce genre de situation, la responsabilité première de la sécurité et la protection des populations et des biens revient aux forces de sécurité nationale. C'est vrai que nous avons un mandat et que nous assumons avec le plus de professionnalisme possible, aux côtés d'ailleurs des forces de sécurité très souvent, mais c'est vrai que cette responsabilité première de la protection, et j'ai entendu d'ailleurs sur les ondes de Radio Capi, plusieurs responsables de la société civile congolaise le rappeler. La responsabilité de la protection des biens et des personnes en RDC, en tout premier lieu, repose sur les épaules des forces de sécurité congolaises. Nous allons peut-être partir à Goma, où ils ont vécu aussi des situations similaires, peut-être, on ne sait pas, mais on va prendre deux questions à Goma. Goma, s'il vous plaît.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Monsieur Bambara, vous avez, lors de votre présentation, lors de la présentation du rapport de ce mercredi, vous avez indiqué que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est dit préoccupé des violences qui ont caractérisé le début de la semaine à Kinshasa, lundi et mardi. Ma question est celle de savoir, maintenant que vous identifiez clairement le problème en RDC, c'est-à-dire les élections, parce que la CENI a échoué de présenter un calendrier électoral et cela a conduit à des manifestations et des bains de sang. Maintenant, étant donné que le dialogue que vous avez soutenu a échoué, Que préconisez-vous pour l'avenir? Pourquoi ne pas organiser directement les élections? Parce que c'est ça que les Congolais veulent, et avancer le pays dans la démocratie. Merci.
Nous avons avec nous notre collègue directeur des affaires du département des affaires politiques de la MONUSCO, Ray Torres. Quelques éléments de réponse, vous qui avez suivi justement la préparation, ce dialogue qui n'est pas fini. Quel élément de réponse pouvez-vous apporter à notre journaliste de Goma?
Bonjour à tous. Merci de votre question. Tout d'abord, vous déclarez que le dialogue a échoué. Je crois qu'il faut faire une différence entre une conclusion de dialogue et un repositionnement des partis. Nous avons évidemment observé avec et suivi avec inquiétude que des parties prenantes au dialogue déclarent suspendre leur participation, mais ça ne veut pas dire que le dialogue a échoué. Le fait de suspendre une participation dans un processus, cela veut dire je veux faire une pause, je veux voir où j'en suis, je veux poser certains principes pour continuer la discussion. C'est comme ça que nous voulons le prendre. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'autre issue à la violence qu'un accord politique consensuel inclusif. Donc nous continuerons à fournir un appui technique, un appui politique à toute discussion. J'aimerais aussi insister sur le fait que ce dont on parle, et ce dont parle la résolution 2277, est d'un dialogue politique, un dialogue politique quel qu'il soit. La cité de l'EUA, c'est très important. Mais il y a toute une série d'efforts qui sont faits en appui à ce qui se passe à la cité de l'EUA, qui doivent continuer également dans la recherche justement de cet accord politique consensuel inclusif.
Voilà, je crois que c'est bien répondu, mais je voudrais juste ajouter un point. Le dialogue est une affaire vraiment entre partis politiques congolais qui doivent, et nous avons appelé nous au niveau des Nations Unies, à ce que ce dialogue soit le plus inclusif possible, qui devait donc essayer de clarifier la suite du processus électoral. Nous avons, nous, au niveau du groupe de soutien à la facilitation, essayé effectivement, avec tous les moyens à notre disposition, d'appuyer les efforts du facilitateur dans ce sens. Le dialogue n'est toujours pas fini, même si les séances, comme vous le savez, ont été suspendues et reprennent vendredi. Donc attendons de voir, nous continuons, nous, à appeler à ce que ce dialogue soit le plus inclusif possible. Beaucoup ont suspendu leur participation, comme on l'a dit. Certains n'ont même pas rejoint. Mais nous espérons qu'avant la fin éventuelle de ce dialogue, nous pourrions voir d'autres personnes, éventuellement d'autres partis politiques, rejoindre le train en marche. Voilà, nous restons à Goma, s'il vous plaît. Hein. On a juste pris une question et je crois qu'il ne faut pas frustrer les collègues de Goma. Une autre question, s'il vous plaît, de Goma.
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abeli, M. Charles Bambara. Le dialogue qui se passe à Kinshasa, selon plus d'un observateur congolais, c'est un dialogue qui se passe entre la majorité et ses alliés. Cette même classe se pose cette question de savoir est-ce que vous allez soutenir ce même dialogue, d'autant plus qu'il y a une frange de l'opposition, entre autres les Tshisekedi, les Diongo, et pour ne citer que cela, qui pense qu'il y aura un vrai dialogue qui sera organisé et qu'il compte sur ça. Vous, comment vous analysez cette situation?
Retourez, s'il vous plaît.
Merci. Vrai dialogue ou pas vrai dialogue, je ne comprends pas très bien votre question. Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que il y a des partis qui ont choisi de ne pas participer aux réunions à la cité de l'EUA, ce que nous avons regretté et nous continuons de regretter. Nous pensons que pour se mettre d'accord entre Congolais, il faut au moins accepter de s'asseoir à la même table. Même si on n'est pas d'accord, d'ailleurs si on était tous d'accord, il n'y aurait pas besoin de négociation, il n'y aurait pas besoin de dialogue, il n'y aurait pas besoin de débat. Ce qui est important, c'est de pouvoir accepter le principe d'échanger des points de vue, même si au départ de la discussion, ces points de vue semblent être totalement, diamétralement opposés. Premier point, nous continuons à insister sur l'importance et la responsabilité historique de toutes les parties de prendre part au dialogue. Deuxièmement, comment est-ce que ce n'est pas à nous, c'est très important à dire, ce n'est pas à la MONUSCO de décider de la qualité du dialogue, de si le dialogue va bien, va mal, s'il a échoué, ce n'est pas le point. Nous appuyons politiquement, techniquement, je le répète, de façon pour essayer d'obtenir la participation la plus inclusive possible à ces discussions. En définitive, la question antérieure qui se référait au calendrier et celle-ci se rejoignent dans le fait que il est vrai qu'il faut un consensus politique congolais avant même de pouvoir décider des techniques, des méthodologies pour arriver à l'exécution de cet objectif politique, de cet accord politique inclusif. C'est très important. Nous ne pouvons pas remplacer la CENI, nous ne pouvons pas remplacer les institutions gouvernementales, les institutions congolaises, et nous ne pouvons surtout pas remplacer les partis politiques, qu'ils soient de ce côté, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest ou du centre. Merci.
Retour à Kinshasa pour prendre une question. Où est le micro? On donne le micro à la collègue sur ma gauche. Une question, pas une double question.
Bonjour, Sonia Rollet, RFI. Mais justement, j'avais deux questions et je vois que vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Sur les arrestations, il y a eu beaucoup d'arrestations qui ont été signalées, plusieurs centaines. On ne sait pas ce que sont devenues ces personnes, est-ce qu'elles sont détenues. Il y a beaucoup de familles qui se plaignent de ne pas avoir accès à ces familles, pas d'avocats non plus. Ça commence à faire long puisque ça fait 48 heures maintenant. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes arrêtées et de savoir où est-ce que ces personnes se trouvent et voilà, quelles sont les circonstances?
Avant que José Maria ne réponde, je voudrais dire que la collègue Sonia Rollet a le bras en bandeau parce qu'il a été prise à partie par les forces de sécurité. Alors, elle n'est pas la seule, il y a d'autres qui ont été violentés par les forces de sécurité, et une fois de plus, nous regrettons cela. Nous nous élevons contre cet état de fait. Les journalistes sont sur le terrain pour faire leur travail de reportage, de quête de l'information au bénéfice de toute la population, et la population est vraiment la population dans sa globalité, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, du... Nous faisons, quand je dis nous, les journalistes font leur travail de collecte de l'information, d'information de la population, et je crois que c'est très important qu'on laisse faire tranquillement ce travail-là. José Maria.
Oui, tout à fait. Les droits à l'information, l'article 19, c'est bien consacré dans les textes internationaux des droits de l'homme, et il faut les respecter. Et même aux professionnels qui veulent informer à la population. Il faut laisser les faire son travail à vous, toute la communauté des journalistes. La question des arrestations. Oui, la grande majorité des arrestations ont été documentées ici à Kinshasa, mais pas seulement à Kinshasa. Nous avons plus que 200 cas documentés et vérifiés. Ils sont dans des différents endroits, notamment au camp Kokolo. Et nous sommes en train aussi avec les autorités pour essayer d'accélérer le processus de libération, mais aussi pour continuer à documenter et à vérifier si les rules des processus due diligence, du process guarantees, les garanties du processus régulier ont été respectées. Ça nous inquiète, ça nous préoccupe aussi. Nous avons reçu beaucoup d'appels des activistes des droits de l'homme, qu'ils ont entendu qu'ils seront convoqués pour les autorités judiciaires, et ça nous inquiète aussi quel sera le suivi aux manifestations. Mais nous aussi, on va continuer à documenter ça et à faire les plaidoyers pour apaiser la situation et pour rappeler un vrai dialogue entre Congolais, que nous considérons c'est l'élément essentiel à ce moment qui manque.
Thank you. Nous allons prendre une question ici. Bon, oui, allez-y alors. Je ne sais pas.
Merci Charles, c'est Moulegwa de l'agence Anadolu. J'aimerais beaucoup plus savoir. Hier, il y a un ultimatum qui a été lancé à la MONUSCO qui est censé... C'est un ultimatum de 3 jours. La MONUSCO est censée délocaliser les rebelles sud-soudanais cantonnés à Munigi, proche de Goma. Et nous apprenons que maintenant même devant votre quartier général de la MONUSCO à Goma, il y a des jeunes de la Lucha qui réclament l'expulsion de ces rebelles. Et Charles, maintenant ces rebelles, proche de Goma, une zone secouée, n'est-ce pas un chargement de trop dans cette région. Merci.
Bon, je vais peut-être laisser la question aux collègues de Goma qui sont en direct avec nous de répondre, mais je voulais juste dire ceci. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles sud-soudanais sont entrés en RDC. Et le gouvernement, et nous l'avons dit ici lors des conférences de presse précédentes, c'est un accord avec le gouvernement de la RDC que la MONUSCO est intervenue pour leur prêter une assistance humanitaire. À la demande, une fois de plus, des autorités congolaises. Nous les avons ensuite extraits du parc de la Garamba parce que beaucoup étaient, et nous l'avons encore dit ici, dans un état de malnutrition ou de maladie sérieux qui pouvait porter atteinte à leur vie. Il fallait les délocaliser, il fallait prendre soin d'eux au plan sanitaire et au plan nutritionnel. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, c'est vrai que nous avons appris depuis hier, il y a eu un bref sitting, en fait, devant le camp de Munuyi. Mais je voudrais un peu écouter donc les collègues de Goma et notamment le colonel qui est assis à côté du porte-parole militaire. Il semble qu'il a des éléments d'information. C'est à vous, Goma.
Oui, merci Charles. C'est justement à cause de ça que je l'ai amené ce matin à la conférence pour pouvoir parler de cette situation de rebelles sud-soudaniens. Colonel Pété Ouye, vous avez la parole.
Oui, bonjour à tout le monde. Je suis le colonel Pierre Huet. Je suis le chef d'état-major adjoint des opérations, des plans pour la force. Donc, en ce qui concerne principalement la situation des Soudanais du Sud, ici à Goma, je voudrais réitérer un point qui est important de comprendre. Nous avons extrait ce personnel-là de la jungle au nord du pays par la demande du gouvernement de la RDC. Donc, nous avons à faire assistance au gouvernement pour pouvoir le plus possible assister ce personnel-là qui était depuis plusieurs journées dans la jungle et qui était mal nourri, qui était déshydraté et qui souffrait beaucoup. Et donc, nous avons apporté cette assistance-là de pouvoir sauver des vies. Donc, on a apporté assistance au gouvernement sur des bases humanitaires, mais aussi sur des bases de la protection des civils au sein du pays. Donc, ces personnels-là ont été extraits durant le dernier mois et ont été établis dans deux bases ici au RDC, soit à Munuyi et également à Dungu. Présentement, on leur donne assistance côté nourriture, côté habillement, côté médical, on leur donne des soins médicaux. On a encore du personnel qui souffrait d'une manière critique et qui sont aux hôpitaux et qui demandent encore des besoins essentiels en médicaments et en soins médicaux pour pouvoir sauver cette personne-là.
Est-ce que il y aurait quelques manifestations de Lucha en ce moment, comme le prétend notre ami journaliste ici, à Goma?
Oui, Charles. Oui. Oui, il faut juste ajouter qu'une trentaine, effectivement, de jeunes manifestants de la Lucha s'est présenté ce matin devant les installations du quartier général de la MONUSCO. Une délégation de 3 membres a été reçue par le chef du bureau de la MONUSCO, à qui ils ont remis un mémorandum, justement dans lequel ces jeunes demandent la relocalisation de ces militaires démobilisés et malades à Goma, à Runigi et à l'hôpital de niveau 3 à Goma.
Merci. D'accord. Dans tous les cas, je suis sûr qu'ils écoutent en ce moment cette conférence de presse et qu'ils ont compris un peu nos explications. Nous allons continuer cette conférence de presse avec Goma. Est-ce qu'on peut prendre une question là-bas? Je crois que nos auditeurs de Radio Okapi vont nous quitter, mais comme nous avons pas mal de questions encore en suspens ici à Kinshasa, nous allons continuer donc cette conférence de presse avec une question à Goma. Goma, c'est à vous. Goma, c'est à vous.
C'est voilà. Oui, Nason Waziwazi, RTGV. Je voudrais savoir si, je reviens sur cette question en rapport avec le Sud-Soudanais, est-ce que il y a eu des progrès dans les efforts que la MONUSCO a promis de faire, dans le contact avec le gouvernement pour trouver justement une issue à cette problématique, la relocalisation de ces Sud-Soudanais parce que la population n'est pas d'accord avec la présence de ces hommes ici à l'est du pays. parce qu'on ne sait pas quand la MONUSCO va continuer à les assister. Quelle perspective par rapport à la présence de ces hommes armés?
J'insiste une fois de plus pour dire qu'il s'agit bien d'une affaire du gouvernement de Kinshasa, du Congo, et que nous, MONUSCO, nous jouons un rôle logistique. Cependant, nous avons interpellé dès les débuts, non seulement depuis New York, mais également ici à Kinshasa, nous avons interpellé, c'est vrai, les gouvernements de la sous-région, la RDC, Juba et d'autres pays de la sous-région à s'impliquer auprès d'ailleurs également des institutions sous-régionales, la CIRGL, l'IGAD, la SADEC et même l'Union africaine, de s'impliquer dans ce dossier pour trouver une solution. La MONUSCO, les Nations Unies pour leur part sont prêtes, en tout cas pour ce qui nous concerne, à porter nos concours pour essayer de trouver effectivement une prochaine destination à ces rebelles sud-soudanais. Je crois que c'est ce que l'on peut dire réellement sur ce dossier et il faut insister. La condition avec laquelle nous les avons délocalisés de la jungle du parc de la Garamba, c'est qu'il fallait qu'ils se désarment. Et une fois de plus, tous ces rebelles sud-soudanais ont été désarmés et les armes sécurisées dans les locaux même de la MONUSCO. Et c'est à cette condition, effectivement, qu'on a pu les déplacer ici et là, à travers le pays, pour continuer à essayer de les traiter s'ils sont malades ou de les secourir sur le plan alimentaire ou nutritionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire donc sur cette question des Sud-Soudanais. Et nous revenons ici à Kinshasa. Nous prenons une question ici. Allez-y, monsieur, présentez-vous et puis une question.
Je suis le petit Baïndé du journal Avenir. Monsieur Charles Bambara, je pense que vous avez déjà beaucoup parlé concernant le dialogue, mais je reviens encore là-dessus. Parce que j'ai encore une préoccupation. Vous avez donné la position de la MONUSCO par rapport aux événements de lundi et mardi. Et vous avez aussi parlé du dialogue.
Mais moi, je voulais savoir quelle chance la MONUSCO donne elle à ce dialogue. Maintenant,
allez-y.
Oui, maintenant qu'il y a...
Par rapport à la question de... Ah bon? Je vais laisser mon collègue des affaires politiques répondre à cette question, mais je veux juste préciser ceci. Ces derniers temps, depuis hier, nous n'avons que deux journaux qui paraissent ici à Kinshasa, alors que d'habitude, on en a presque une dizaine. Alors, je suis heureux de savoir que l'avenir paraît encore et que l'Observateur paraît. C'est les deux journaux qui paraissent. Je ne sais pas si les autres ont des... on est soucis, mais bon, bref, c'est une remarque que j'ai faite. Donc, Rétorin, s'il vous plaît.
C'est une question très, très importante à deux titres. Je vais répondre directement à la vôtre et ensuite je vais rajouter un commentaire. Premièrement, c'est important parce que c'est important de répéter que, à mon humble avis, le dialogue ne s'est pas arrêté. Vous le qualifiez comme ayant échoué. Il est très différent de dire j'arrête, je me retire, je ne veux plus discuter ou je refuse d'y aller et de dire je suspends et je présente certaines conditions pour continuer la discussion. Ça fait partie de la discussion, ça fait partie du dialogue. C'est très important. Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour que le dialogue soit un succès. Donc ce n'est pas une question de savoir ce que je ressens aujourd'hui à 10h, à 10h ou à 14h. Voilà. C'est pas ça. C'est il faut tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Mais l'avis de la MONUSCO n'est qu'un avis. Et c'est un avis consultatif. Et c'est un appui politique. Mais ce n'est pas l'opinion la plus importante. L'opinion la plus importante, c'est celle des parties prenantes qui sont composées de la majorité, de l'opposition, qu'elle soit à la cité de l'OEA ou pas, et de la société civile. Il ne faut pas oublier la société civile. Le commentaire que je voulais rajouter, qui me semble implicite dans votre question, c'est qu'il y a un rapport entre le succès probable, le succès que nous souhaitons de ce dialogue, et ce qui se passe dans la rue. C'est pour ça que la déclaration du début de M. Bambara est très importante. Un appel à toutes les parties de ne pas encourager la violence. J'insiste vraiment beaucoup. La violence n'est pas une façon, ça semble complètement inutile de le dire, mais il faut le répéter, ce n'est pas une façon de résoudre un conflit. nous ne pouvons pas dire « je ne suis pas content de ce qui se passe », alors je lance des jeunes qui ont déjà d'autres problèmes à vivre, à s'exposer à des violences. Je pense que c'est très très important que nous stoppions cette violence tout de suite et que nous donnions le plus de chances possible au succès du dialogue national. Merci beaucoup, monsieur.
Fin de cette conférence de presse. À la semaine prochaine.